Mission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Nous sommes vendredi, c'est donc la Libre Antenne. Dans 30 minutes, vous pourrez commenter toute l'actualité qui vous a marqué ces derniers jours en France, sur le continent africain ou à travers le monde. En tout cas, s'il y a bien un sujet qui domine au standard, c'est évidemment cette finale qui nous attend, qui vous attend. France-Croatie, nous y reviendrons évidemment, mais il y a d'autres sujets qui suscitent aussi un certain intérêt. Dans une partie de nos auditeurs, on parlera du nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux également à souhaiter témoigner sur l'augmentation du prix du carburant à la pompe en Guinée, sur les mesures prises contre les fonctionnaires au Gabon, des réactions aussi sur cette campagne électorale qui a déjà commencé, et bien commencé au Mali en vue de la présidentielle du 29 juillet. Bref, les sujets ne manquent pas, il n'y a pas que le football évidemment. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI. C'est votre rendez-vous privilégié avec nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants. Et pour commencer, eh bien, on va parler football. Mais on ne va pas parler de la Coupe du Monde. On va revenir sur ce véritable séisme qui s'est produit mardi. Il était 17h30. La France se préparait à rencontrer la Belgique lorsqu'un communiqué du Real Madrid annonçait le départ de Cristiano Ronaldo. Alors évidemment, Ronaldo à la Juve, ça suscite beaucoup de réactions, beaucoup de questions. Frédéric Suteau, bonjour.
Bonjour, Juan.
Journaliste au service des sports de RFI. On va prendre plusieurs auditeurs. Des auditeurs qui, d'une certaine façon, se font le porte-parole de tous ceux qui nous ont contactés depuis mardi 17h30, puisque les questions se rapprochent, évidemment. Lai, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Cancan, en Guinée, nous vous écoutons.
Juan, après l'officialisation du transfert de Cristiano Ronaldo pour la Juventus de Turin, le Portugais a remporté sa 4e Ligue des Champions avec le Real, la 3e d'affilée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Cristiano et la direction du Real Madrid?
Alors, Frédéric Suteau, quelles sont les raisons du départ de Ronaldo?
Elles sont nombreuses. Cristiano Ronaldo, hein, qui est arrivé à Madrid en 2009, c'est quand même un long bail, et il est arrivé en provenance de Manchester United. Et c'est vrai qu'on est loin aujourd'hui de cette liesse qu'il y avait eu le 6 juillet 2009, avec 90 000 socios qui étaient là. Santiago Bernabéu, le stade était plein pour accueillir la star Cristiano Ronaldo, qui, durant toutes ces années, bien a porté le Real de Madrid, une cinquantaine de buts tous les ans, 4 Ligues des Champions remporté les 3 dernières d'affilée, hein. C'était lui la tête de gondole de ce projet, Cristiano Ronaldo. Mais quelque part, il a eu le sentiment de ne jamais être complètement aimé.
Ronaldo le mal aimé.
Ronaldo le mal aimé. Avec cette comparaison, vous avez Lionel Messi qui est à Barcelone. Oui. Et finalement, durant toutes ces années, à distance, c'était la guerre pour le Ballon d'Or entre Cristiano Ronaldo au Real et Lionel Messi à Barcelone. Lionel Messi, lui, il a été recruté très jeune par Barcelone. Il a fait ses classes là-bas. On l'a aidé, même. Il avait des problèmes de croissance. Le club est vraiment derrière lui. Alors que Cristiano Ronaldo, il a un ego surdimensionné. Il a un caractère très particulier. Il est assez égoïste. Oui. Et donc, en permanence, il avait besoin de cette reconnaissance qu'il revendiquait. Mais au Real de Madrid, il y a une règle d'or. Personne ne peut être au-dessus de l'institution.
Bien sûr.
Real de Madrid. On doit se fondre dans ce collectif.
Jusqu'à présent, Frédéric Suteau, Florentino Pérez, le président du Real, acceptait ou en tout cas cédait aux caprices de la star Ronaldo. Il en avait marre, Florentino Pérez, de ses caprices, de ce Ronaldo qui joue la diva?
Ronaldo qui joue la diva. Souvenez-vous, la dernière finale de la Ligue des Champions que remporte le Real face à Liverpool, 3-1. Quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, alors que tous les joueurs du Real sont en train de célébrer la victoire avec les supporters, c'est la liesse, hein, 3e Ligue des Champions d'affilée, vous avez Ronaldo qui répond à une question et qui dit, qui parle du Real de Madrid au passé, hein, il dit exactement, j'avais noté la phrase, voilà, c'était bien de jouer avec ce club, donc là il ouvrait la porte un futur départ. Et Florentino Pérez, oui, il en a un petit peu marre de ses caprices de star de Cristiano Ronaldo. Et il faut pas oublier qu'il a 33 ans. Donc il demandait encore plus d'argent. Mais à 33 ans, il y a bien un moment où ça va s'arrêter.
Bien sûr.
Il est quand même sur la pente descendante.
Et il demandait beaucoup plus d'argent pour être payé aussi bien que Messi, puisqu'il y avait même sur le plan financier cette bataille que se livraient les deux joueurs.
On en revient toujours à cette comparaison et cette question d'argent. Pour lui, il était impensable que Lionel Messi puisse gagner plus. Et même si Cristiano Ronaldo est arrivé aux 5 ballons d'or aussi bien que Lionel Messi, il avait toujours ce sentiment-là, et c'est ce qui ressort un petit peu, que Lionel Messi est un meilleur footballeur. Hein. Cristiano Ronaldo, c'est la machine à marquer. Mais techniquement, il n'y a pas la finesse d'un Lionel Messi. Donc oui, c'est un petit peu le mal-aimé au Real de Madrid. Et donc finalement, il a dit, je vais partir.
Voilà, alors je ne sais pas si c'est le Real qui se sépare de Ronaldo ou Ronaldo qui se sépare du Real.
Un peu des deux.
Lai, vous avez une autre question.
Juan, quel impact ce transfert de Cristiano Ronaldo peut avoir sur le Real et quel est le joueur qui est annoncé pour remplacer le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions?
Incontestablement, Ronaldo laisse un vide énorme au Real.
Oui, mais on est en fin de cycle. L'entraîneur Zinedine Zidane l'a bien senti. Il vient de gagner 3 Ligues des Champions avec cette génération Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et consorts, Benzema, Gareth Bale. Mais Cristiano Ronaldo, encore une fois, a 33 ans. Et cette année, c'est un petit miracle qu'ils aient encore une fois remporté cette Ligue des Champions. Donc finalement, oui, on est arrivé au bout de l'aventure. Et le Real de Madrid, le président Florentino Pérez, vont devoir se réinventer. Zinedine Zidane n'est plus là. On a Lopetegui qui arrive pour entraîner. Il va falloir trouver un nouveau galactique.
Alors qui ?
Eden Hazard, peut-être, le Belge qui plaît énormément aux dirigeants du Real de Madrid.
Et qui avait déjà été contacté par le Real il y a tout juste un an.
Il avait été contacté, Eden Hazard qui joue à Chelsea actuellement, même si certains considèrent qu'il n'a pas la stature d'un Ronaldo ou d'un Messi. Il y a également le serpent de mer, faire venir Neymar, qui était à Barcelone il y a encore un an et qui a été acheté 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. On sait que le père de Neymar discute régulièrement avec les dirigeants du Real de Madrid et Neymar avait laissé entendre avant la Coupe du Monde qu'il n'était peut-être pas si heureux que ça au Paris Saint-Germain.
Donc, d'autant que Kylian Mbappé va forcément, on va dire, prendre du pouvoir au sein du PSG après ce merveilleux mondial qu'il réalise en Russie.
Oui, le Français Kylian Mbappé risque de demander un peu plus de place dans l'attaque. Hein. Il a été exilé un petit peu sur l'aile droite pour laisser la place à Neymar la saison dernière. Comment vont-ils pouvoir cohabiter? Mais il faut savoir que l'image de Neymar est aussi abîmée. Hein, avec les plongeons en répétition, le Brésil qui a été sorti en quart de finale et finalement faire venir Neymar au Real, est-ce une si bonne idée? En tout cas, bon, le mercato va durer encore un mois et demi. Jusqu'au dernier jour, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une énorme surprise, car le Real, oui, va devoir recruter et frapper fort sur le marché pour rassurer les supporters.
Il y aura donc un feuilleton Real Madrid tout au long de l'été. Autre question, bonjour Kalilou.
Oui, bonjour Anel, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Pourquoi avoir choisi la Juventus de Turin alors qu'il était longtemps ciblé par de nombreux clubs comme le Paris Saint-Germain et quels sont les autres clubs qui étaient intéressés?
Alors, y avait-il d'autres clubs intéressés par Ronaldo?
Paradoxalement, pas tant que ça, non. Parce que effectivement, le Paris Saint-Germain, depuis plusieurs années, depuis 2012, draguait Cristiano Ronaldo. C'était le rêve des Qataris. Mais tant qu'il était au Real et qu'il gagnait avec le Real et que ça fonctionnait, la porte était fermée à double tour par Florentino Pérez. Là, effectivement, il aurait pu y avoir une opportunité, mais il y a un an, le Paris Saint-Germain a acheté, on l'a dit, Neymar et Kylian Mbappé. Et il y a l'UEFA qui est sur le dos du PSG en disant « fair play financier, vous avez dépensé sans compter ». Donc là, de toute façon, le PSG n'aurait pas pu s'acheter Cristiano Ronaldo en l'état. Et puis comment faire cohabiter dans une même équipe Neymar, Ronaldo, Mbappé, ça n'était pas possible. Il y a eu une opportunité pour la Juventus de Turin, quand ils ont senti qu'effectivement ça ne collait plus avec le Real. La Juve qui vient de perdre le gardien, Buffon.
Oui.
Gianluigi Buffon. Donc oui, la Juve l'a fait venir et on sait que les supporters turinois n'ont pas oublié le formidable but qu'a marqué en quart de finale à Turin, c'était en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, le 3 avril dernier, un retourné acrobatique incroyable où il avait été ovationné par tout le public de Turin. Et ça, ça a beaucoup marqué Cristiano Ronaldo, où ce jour-là, il s'était presque senti, c'est ce que murmurait son entourage, plus aimé par les supporters de la Juve que par ceux du Real de Madrid.
En tout cas, le défi sera important pour Ronaldo à la Juve, puisqu'on attend de lui qu'il permette à ce club italien de remporter enfin, parce que ça fait déjà une vingtaine d'années que le club n'a pas remporté une Ligue des Champions. Autre question, bonjour Hamid.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs fidèles de RFI. Et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur vos antennes.
Eh bien c'est normal, vous nous appelez d'Abéché au Tchad. On vous écoute.
Effectivement, j'ai une question à vous poser par rapport au départ de Cristiano Ronaldo.
Oui.
Et comment Cristiano Ronaldo pourrait-il s'adapter à ce nouveau championnat italien ?
Alors, d'autant que le championnat italien et le championnat espagnol, si j'ai bien compris, je ne suis pas un expert, sont assez différents sur le plan tactique, c'est ça, Frédéric ?
Oui, culturellement, on parle du catenaccio, en Italie, on marque un but, on verrouille, il y a moins de scores fleuves, comme il peut y en avoir en Espagne ou en Angleterre, donc c'est vrai qu'il aura sans doute moins d'espace, mais vous savez, Cristiano Ronaldo au Real, c'était en moyenne 50 buts par an.
Oui.
Quand vous êtes un attaquant de la paire du portugais, il vous inquiétez pas pour lui, le chemin du but, il va le trouver. Et c'est vrai que même s'il court un peu moins qu'avant, il est possible qu'on le positionne en véritable avant-centre. Par exemple, on va pas lui demander d'être sur les ailes, de tout faire, d'être au four et au moulin. Il sera devant pour marquer les buts et surtout pour apporter son expérience cruciale dans les soirées les plus chaudes, celles de la Ligue des Champions. Car vous l'avez rappelé, Juan, la Juventus a disputé ces dernières années des finales de Ligue des Champions, mais à chaque fois, c'était pour laisser le trophée à l'adversaire. Barcelone 3-1 face à la Juve en 2015, et puis le Real de Ronaldo qui avait corrigé la Juve en 2017, justement, 4-1. Il sera peut-être celui qui va ramener la coupe aux grandes oreilles à la Juventus de Turin. Là, ce serait un sacré pied de nez, en tout cas, s'il y parvient.
À suivre donc. Merci beaucoup, Frédéric Suto, d'être venu répondre à quelques-unes de toutes ces questions que nous
avec
avons
plaisir.
Reçues. À très bientôt, je l'espère. Si vous souhaitez réagir justement au départ de Ronaldo, profitez-en. La libre antenne, c'est dans 20 minutes maintenant. 33 9 693 693 70. Bonjour Dieudonné.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Libreville, au Gabon, et vous avez des questions sur le scandale sanitaire qui secoue le Kenya.
Exactement, Monsieur Juan. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Il y a quelques semaines, j'ai appris sur vos antennes d'importantes quantités de sucre de contrebande ont été saisies au Kenya, contenant un taux élevé des métaux lourds. Et pour cela, j'ai quelques questions, Monsieur Juan.
Allez-y.
Comment ce sucre a-t-il été contaminé ? La première question.
Oui.
Et quelles sont les conséquences pour la santé ?
Alors, c'est vrai que ce scandale du sucre de contrebande secoue tout le pays et inquiète évidemment la population. Bonjour Laure Broulard.
Bonjour.
Correspondante RFI à Nairobi, où selon différentes institutions, de grandes quantités de sucre en circulation dans le pays auraient été importées illégalement et seraient impropres à la consommation. Des révélations qui ont plongé les Kenyans dans l'inquiétude. Plusieurs personnes ont été arrêtées ces dernières semaines. Les accusations pleuvent de toutes parts. Sait-on, Laure Broulard, comment ce sucre a-t-il été contaminé ?
Alors pas vraiment, et c'est assez compliqué parce qu'on parle de plusieurs types de contamination. Donc tout commence le mois dernier lorsque le ministre de l'Intérieur annonce que du sucre de contrebande saisi à Nairobi contient du mercure. Quelques jours plus tard, c'est le KEPS, le bureau des normes en charge de la surveillance des biens de consommation, qui explique que ce sucre de contrebande contient des taux élevés de cuivre et de plomb, mais pas de mercure. Alors pour certains sacs, le taux de cuivre serait même de 20 mg par kilogramme, c'est-à-dire 10 fois plus que le taux autorisé. Entre-temps, l'équivalent d'une commission d'enquête parlementaire est mise en place, les saisies de sucre de contrebande se multiplient et le ministère de la Santé conduit lui-même des tests sur des échantillons pris dans tout le pays. Et là, il annonce que 60% du sucre analysé est impropre à la consommation. Mais cette fois, ce n'est pas à cause de la présence de métaux lourds, mais à cause du taux d'humidité trop élevé des échantillons. Et donc voilà où on en est aujourd'hui.
Mais alors justement, comment en est-on arrivé là, Laure ?
Eh bien, les causes de ces contaminations présumées ne sont pas très claires et elles semblent en tout cas multiples. Selon les professionnels de l'industrie sucrière qui ont témoigné devant l'Assemblée nationale, une des raisons principales serait la vente de sucre brut, non raffiné et surtout non traité, en cause de nombreuses entreprises non agréées qui auraient pu importer et vendre du sucre sans avoir la capacité de l'affiner et de le traiter correctement. Alors derrière le scandale sanitaire, c'est donc bien l'importation illégale du sucre au Kenya qui est mise en cause. Il y aurait également des problèmes de stockage et de transport, différentes étapes au cours desquelles le sucre a pu rentrer en contact avec des substances toxiques.
Ah oui, effectivement. Alors justement, Dieudonné à Libreville nous demandait quelles étaient les conséquences pour la santé.
Oui, selon l'Organisation mondiale de la santé, le cuivre et le plomb, s'ils sont ingérés en grande quantité, peuvent avoir des effets assez graves sur la santé, allant de la fatigue au vomissement ou aux problèmes rénaux. Mais je l'ai dit, pour l'instant, il est difficile de savoir dans quelle mesure la population kényane a été touchée. Le ministère de la Santé n'a en effet pas confirmé la contamination aux métaux lourds. Et pour ce qui est du sucre, déclaré impropre à la consommation, on n'a pas eu de déclaration ou de chiffres précis sur la quantité qui pourrait être dans les supermarchés.
On suivra en tout cas l'évolution de ce scandale avec vous, Laure Broulard, correspondante à Nairobi pour RFI. Dieudonné, je vous souhaite une bonne journée à Libreville, au Gabon. Houda Ibrahim, du service Afrique de RFI, nous rejoint à l'instant. Bonjour Houda.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous a demandé d'être avec nous ce matin. Vous suivez de très près l'actualité en Libye. On a justement des questions concernant cet accord conclu il y a quelques jours entre la Libye et l'Italie. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la meilleure radio.
Merci de vos encouragements, vous êtes à Bamako, on vous écoute.
Oui Juan, le nouveau gouvernement italien a signé un accord avec la Libye contre l'immigration et qui autoriserait une présence militaire italienne en Libye. Alors Juan, peut-on savoir quelles sont les contreparties que la Libye a obtenues?
Alors ça, c'est une bonne question, Houda Ibrahim. Je vous ai écouté sur RFI et visiblement, c'est compliqué d'avoir cette information.
C'est très vague, oui. C'est pas clair du tout. Mais on sait que cet accord se base sur celui qui a été signé du temps de Muammar Kadhafi en 2008, qui lui-même s'est basé sur un ancien accord signé en 2007, puis en 2002. Donc c'est un énième accord entre l'Italie et la Libye concernant l'immigration illégale. Ce qu'on peut dire là-dessus, que l'Italie considère toujours que la Libye est sa quatrième côte, donc elle est libre pratiquement de faire ce qu'elle veut, notamment en l'absence de l'État, d'un vrai État libyen. Il y a effectivement une présence militaire, des bateaux, des bases militaires.
Des avions qui survolent également le territoire libyen.
Et on parle aujourd'hui d'une nouvelle base qui sera créée. En tout cas, une présence dans le sud libyen, dans la ville de Ghat, où apparemment on est en train aussi de construire des centres pour les migrants, car l'Italie a décidé aujourd'hui de ne plus recevoir de bateaux et de refouler, c'est les déclarations du ministre de l'Intérieur italien, et on le voit jour après jour dans l'application.
C'est la politique du nouveau gouvernement italien.
De refouler tous les migrants qui viennent en bateau. Alors, en contrepartie, qu'est-ce que la Libye? Eh bien, l'Italie a annoncé cette semaine qu'elle va former à nouveau des gardes-côtes, 500 et quelques officiers seront formés dans les prochains mois sur la base militaire de Tripoli, dirigée par l'Italie. Et il y aura aussi 11 bateaux préparés pour accueillir les migrants dans la mer et le ramener en Libye.
D'accord.
Et d'ailleurs, il y a toute une polémique aujourd'hui qui est vécue par rapport à ce bateau qui est arrivé hier en Sicile et qui ramène à peu près 70 migrants repêchés dans la mer et que l'Italie ne veut pas recevoir et il est question qu'ils soient refoulés
vers la Libye. D'accord. Bon, merci beaucoup Houda Ibrahim. Vous souhaitiez rajouter peut-être une dernière information sur les contreparties?
Ce qu'on voit qu'il y a eu des réunions cette semaine entre les parties européennes et italiennes autour de cette question. Et on voit que l'Italie hausse le ton toujours par rapport à cette question et que le dossier va se compliquer plus par rapport à cette question.
Et c'est un dossier qui divise l'Union européenne. On l'a encore vu la semaine dernière lors du Conseil européen. Merci beaucoup Houda Ibrahim d'être venu répondre à Blaise de Bamako. Restez avec nous. Dans un instant, on va retrouver la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin et on sera de retour dans tout juste des minutes pour la Libre Antenne. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.